Voilà, cela fait déjà un certain temps que j'ai prévu d'inviter Lily Roth. J'attendais d'en comprendre mieux l'ensemble de ses rayons d'intérêt et d'action pour l'accueillir aujourd'hui avec une expérience très complète de ce qu'elle réalise, de ce qu'elle propose au public. Alors Lily Roth, bonjour.
Bonjour René, tout d'abord merci de m'avoir invitée, parce que moi ça faisait aussi très longtemps que j'avais envie de te rencontrer, parce que j'avais entendu parler de toi, parce que comme tu l'as dit, j'ai plusieurs casquettes, et j'ai aussi la casquette de professeur d'anglais, donc finalement je ne travaille jamais très loin de toi, mais nous ne nous étions jamais rencontrés.
Voilà, alors c'est vrai qu'entre-temps j'ai pris l'occasion un peu de me documenter sur ton travail, que tu m'as un peu envoyé, que je vois un peu l'état de tes recherches, et puis aussi, me préoccuper occupé d'une certaine manière de ta santé, puisque tu as eu un parcours qu'on peut présenter parce que c'est quand même intéressant en termes d'expérience pour mieux comprendre tes démarches.
Oui, il m'est arrivé beaucoup de choses. J'ai eu en effet un parcours assez varié et on va dire que finalement je suis un patchwork de plein d'expériences qui me permettent d'aider les autres aujourd'hui. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix, finalement, même si j'ai vécu des moments difficiles. Alors, je ne vais pas dire que je suis ravie de les avoir vécus. Hein, on ne va pas non plus aller jusque-là. Mais en tout cas, peut-être qu'ils se sont mis toutes ces petites épreuves sur mon chemin pour que je puisse être justement avec toi aujourd'hui. Donc,
Alors, chaque personne dans sa vie a des moments difficiles en termes de santé. Après, il y a encore d'autres soucis. Peut-être d'ailleurs que les soucis psychologiques peuvent intervenir aussi dans les problèmes de santé physique. Ça, on parlera peut-être un petit peu de cet effet un peu boomerang de certaines pathologies.
Ah oui, mais c'est complètement ça. Oui, c'est exactement ce dont je parle. Oui.
Et donc, on va dire que chacun a sa personnalité, a ses phases dans sa vie, rencontre à un certain moment une difficulté particulière. Certaines difficultés ont tendance à se résorber naturellement. C'est un peu la force de notre nature humaine.
La résilience.
Ou animale même, carrément. Et puis, il y a aussi des maladies qui s'incrustent, qui deviennent, qui se prolongent dans le temps et dont on ne sort pas forcément vainqueur. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu l'aspect, à partir du moment où quelqu'un se sent dans une sorte de maladie, qui peut être physique, par exemple, on peut partir de là. Est-ce que cette maladie physique, elle n'est que une manifestation d'un problème physique, ou est-ce qu'elle est plus largement à prendre en compte dans un état plus global? Et peut-être c'est un petit peu ça la dimension de votre travail.
Mais c'est exactement ça, parce qu'en fait, c'est vrai que jusqu'à très récemment, d'ailleurs, jusque 1979, la douleur, elle était définie. Et donc là, je vais donner la définition exacte de l'International Association for the Study of Pain. C'était défini comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée, et attention au mot associée à une lésion tissulaire réelle, potentielle ou décrite en ces termes par le patient. Ça voulait dire qu'il ne pouvait pas y avoir de douleur si les IRM, si les examens médicaux ne montrait rien. Donc c'est les fameux patients à qui on disait « Écoutez, ça va être dans votre tête, madame, c'est dans votre tête, monsieur, puisque regardez, il n'y a rien. » Et on laissait ces patients un peu à l'abandon, parce que s'il n'y a rien, mais moi j'ai mal, qu'est-ce que je fais ? Toute cette mouvance a entraîné, on en parlait justement un petit peu avant l'émission, un certain charlatanisme dans ces milieux, parce que forcément c'est facile de s'accrocher à des gens qui n'ont plus d'espoir finalement, et à qui la médecine ferme les portes. Et heureusement, la définition a maintenant changé. Et donc, je vous ai dit, attention, avant, on disait qu'elle devait être associée à une lésion tissulaire. Et maintenant, on dit associée ou ressemblant à une lésion tissulaire. Et ça change tout. Parce que ça veut dire qu'une personne peut avoir mal dans son corps. Et pourtant, quand elle fait des IRM, quand elle fait des examens médicaux, on ne va rien trouver. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle n'a pas mal. Et le corps médical prend conscience de ça. Alors, il y a encore certains... J'ai des patients qui viennent me voir en me disant « mais moi, on m'a dit que c'était dans ma tête, quoi. » Donc, il y a encore des médecins qui ne sont pas forcément au fait de tout ça. Mais heureusement, le corps médical essaie vraiment maintenant de comprendre la douleur dans sa pluridisciplinarité, dans sa multifactorialité plutôt, et de comprendre que finalement, si un patient, et ça, ça a aussi été mis et affirmé par l'OMS, si un patient a mal, il doit être reconnu dans sa douleur. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de dire à un patient « Mais enfin, vous n'avez rien, monsieur, vous n'avez pas mal. » Si la personne a mal, elle a mal.
Alors, là, on parle de la douleur en tant que symptôme ou en tant que problème, la douleur, c'est aussi, d'une certaine manière, une alerte sur des problèmes qui peuvent être réels ou non. Et donc, ça a aussi une vocation à être utile. Par exemple, si je veux dire une bêtise, on se brûle,
oui,
on enlève la main, d'accord ?
Bien sûr.
C'est une douleur.
Bien sûr.
Et beaucoup de douleurs sont liées à un mauvais geste, mm-hmm. une rencontre impromptue avec un objet
c'est ça.
plus ou moins contondant. Donc au départ, c'est plutôt bien qu'on ait ces réflexes.
Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec toi, en effet, puisque c'est vrai que... alors, j'ai l'habitude d'utiliser... Donc toi, tu as utilisé ton exemple. Moi, mon exemple, c'est le petit doigt-pied qui se cogne sur la table basse. En général, dans l'audience, les gens font... On voit un petit... Voilà, tout le monde a une idée de ce que ça peut donner. Donc ça, en effet, c'est les douleurs qui sont salutaires, parce qu'elles nous disent, oula, attention, peut-être qu'il est cassé, peut-être... Voilà, donc c'est en effet, la douleur, elle est salutaire à la base. C'est un signal d'alarme, c'est le signal d'alarme de notre corps. Donc il ne faut pas, en effet, essayer de le faire taire à tout prix. Au contraire, parce que la douleur, elle est là pour une raison. Donc ça, c'est les douleurs qu'on appelle nociceptives, c'est les douleurs, voilà, les petites douleurs du quotidien, comme tu disais. Ensuite, il y a aussi ce qui est douleurs, qui sont des douleurs neuropathiques. Donc ça, malheureusement, c'est les douleurs neuropathiques, c'est ce que j'ai dans le pied. Suite à l'opération d'hernie discale, j'ai une partie du nerf qui a beaucoup souffert, parce que j'ai été paralysée pendant plusieurs semaines. J'avais perdu les fonctions, tout ce qui était bas du corps. C'était très, très compliqué, voire même inexistant. Même si, heureusement, suite à l'opération, l'hernie a pu... on a pu décompresser le nerf. Malheureusement, il a été abîmé. Donc ça, c'est les douleurs neuropathiques qui sont liées à un problème du système nerveux. Mais si je fais des radios et tout ça... Enfin, pas des radios, bien évidemment. Mais si je fais des examens, on va voir qu'il y a quelque chose. Et par contre, cette douleur dont tu parles, en effet, c'est la troisième douleur. Et c'est drôle parce que dans les textes, ils parlent d'une douleur d'un troisième type. Je trouve ça extraordinaire. En effet, c'est une douleur d'un troisième type. Parce que c'est une douleur où finalement... Le système d'alarme se déclenche alors que les radios ne montrent rien ou les imageries ne montrent rien. Mais alors, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, le corps se dérègle ? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, ce système d'alarme se dérègle ? Et c'est là où, en effet, il faut aller chercher plus loin. Il y a des explications physiques ou des explications psychologiques et parfois les deux. Par exemple, si je te parle des douleurs des membres fantômes, je ne sais pas si ça te parle.
Si, oui. Quelqu'un, par exemple, qui est amputé, qui sent encore la douleur de son pied.
Voilà. Cette personne-là va oser lui dire non, t'as pas mal. Voilà, parce qu'on respecte un peu ce côté personne qui a été amputée. Pourtant, en effet, s'il n'a plus de pied, pourquoi ressent-il de la douleur dans ce pied, dans ce membre fantôme, en fait ? Eh bien, on s'est rendu compte que finalement, même si on pouvait encore avoir un pied, que ce pied pouvait être sain, finalement, bizarrement, je pouvais aussi y avoir des douleurs, alors que finalement, il n'y a rien. Parce que c'est la même chose. Le système d'alarme du corps s'est déréglé à un moment. Donc pour l'amputé, on va dire qu'il est resté sur un ancien schéma corporel. Il n'arrive pas à comprendre qu'il n'y a plus de danger, puisque si on a amputé, c'est qu'il y avait danger, forcément. On a amputé, normalement, il n'y a plus de danger. Le corps est en sécurité maintenant. Mais le cerveau n'arrive pas à sortir de ce piège, en fait. Il tourne en rond. Et donc, voilà, les douleurs fantômes. Donc là, ça peut être lié à quelque chose de physique, mais aussi psychologique, c'est quand le corps prend peur. Alors, il prend peur de dangers physiques, mais aussi de dangers psychologiques, un stress récurrent, des traumatismes qu'on a trop bien enfouis, parce qu'on pense tous, on essaye tous d'être fort, hein, je pense, quelque part, en se disant, mais non, mais ça, c'est pas grave, je vais passer au-dessus, ça va aller. Mais le fameux « ça va aller », en fait, il peut ressortir des semaines, des années plus tard, sous une douleur chronique. Ça peut être aussi le stress récurrent, je pense notamment là aux aidants. Les aidants qui portent un fardeau finalement tous les jours, qui prennent, en se disant « mais moi j'ai pas le droit parce que je dois être fort pour l'autre ». Oui, mais à un moment c'est compliqué d'être fort pour deux en fait. Et donc il y a toutes ces douleurs, alors ces dangers pour notre corps, pour notre intégrité physique qui s'additionnent. Le professeur Sarnaud, qui est un professeur américain qui a beaucoup travaillé là-dessus, disait les douleurs chroniques, alors bien évidemment on est dans de la grande schématisation, mais il disait c'est un tiers de traumatisme, un tiers de stress quotidien et un tiers de personnalité favorisante. Parce que souvent les gens que je croise qui viennent en dédicace pour les livres ou qui viennent me rencontrer, mais il y a beaucoup de professeurs, il y a beaucoup d'infirmiers, il y a beaucoup de médecins. Donc c'est des professions qui finalement se consacrent aux autres énormément et finalement parfois s'oublient eux aussi. Donc, c'est des personnalités qui sont, voilà, en général très altruistes et qui, voilà, comme je disais, s'oublient parfois.
Alors, il existe en informatique, par exemple, les antivirus. Hein, certains détectent des anomalies, etc., alors que ce sont des faux positifs, par exemple. Est-ce qu'une douleur peut aussi être une illusion de douleur et qu'au final, quand on vérifie, ce n'est pas forcément grave?
La douleur, parfois, en effet, quand on fait des IRM, quand on fait des examens, parfois, en effet, on ne trouve rien. Mais si la douleur est là, c'est qu'il y a quand même quelque chose à aller creuser. Alors, la question, c'est est-ce que finalement c'est grave ou pas ? C'est difficile de mettre une échelle sur des sentiments et des émotions parce que là, c'est ça qu'on est en train d'essayer de faire. Est-ce qu'avoir été harcelé, c'est grave ? Est-ce que avoir été violé, je vais plus loin, c'est grave ? Est-ce que subir du stress au quotidien, aller la boule au ventre à l'école, avoir peur de son patron, est-ce que c'est grave ? Je retourne la question, je sais pas. Mais en tout cas, si les douleurs sont là, c'est qu'elles sont l'image de quelque chose. Le corps ne va pas nous envoyer de la douleur comme ça, sans raison. Il y a toujours finalement des raisons derrière. Et c'est ce que le docteur Nektou, qui écrit la préface de mon livre, donne un exemple assez parlant, je trouve. C'est qu'il dit qu'il reçoit des personnes âgées en consultation. Et puis, les personnes leur parlent de leur douleur, de enfin voilà, qu'il n'y a rien qui va, etc., etc. Et puis après, il les emmène sur un autre terrain. Il leur parle de leur week-end. « Ah non, mais le week-end, ouais, c'était bien, bon, on a reçu les petits-enfants, on a joué dans le jardin, et... Et vous aviez mal ?»« Oui, non, si, enfin quand même, mais... Et pourtant, est-ce que vous allez dire à ce moment-là que cette personne, ça veut dire que le reste de la semaine, elle fait de la comédie ?» Non, c'est juste que son cerveau, il est orienté sur autre chose à ce moment-là. L'envie de profiter des petits-enfants, bah, fait passer au-dessus du reste, finalement, fait passer au-dessus de la douleur.
Donc... C'est vrai que dans la vie, on peut associer des impressions. Par exemple, on dit, bon, ça m'ennuie, donc ça me stresse, donc ce n'est pas bon. Et d'autres choses qui sont bonnes, on salive, on savoure d'avance. Il y a des contextes psychologiques qui sont... Alors, on peut dire que ce n'est pas une réalité, mais en même temps, ça existe. Et la psychologie dans ces affaires-là, c'est forcément quelque chose à prendre en compte.
Ah mais je suis... Entièrement d'accord. Et d'ailleurs, tu parles de saliver, c'est drôle parce que quand tu es en train de parler, ce qui me venait à l'idée, c'est justement l'exemple de Pavlov. Ça doit te parler, l'exemple de Pavlov, hein, qui fait sonner une cloche. Donc le chien, quand il entend la cloche, il sait qu'on va lui donner à manger. Donc il s'habitue à ça. Et puis un jour, on sonne la cloche, mais la gamelle est vide. Pourtant, que fait le chien ?
Alors, à l'inverse, il y a aussi la cloche qui annonce la douleur. Et il y a eu des expériences sans doute là-dessus aussi. Hein.
Et donc, c'est l'idée, justement, on est sur toute l'idée du conditionnement, en fait. C'est que, comme tu le dis, il y a un énorme conditionnement autour des circonstances. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a tout le contexte psychosocial à prendre en compte dans la douleur. Puisque, justement, donc, la gamelle est vide et le chien salive quand même. Et c'est pourquoi, quand on parle à certaines personnes qui ont mal au dos, notamment, ou alors mal au poignet ou mal au cou, on va se rendre compte que finalement, une réunion arrive, paf, une migraine. Et c'est pas du fake, comme diraient les jeunes. C'est pas du fake, la migraine est là. Pourtant, elle est conditionnée par le fait de cette réunion où je sais que je vais être stressée, on va me demander encore plus, etc., etc. Et le fait de s'asseoir, pareil, des gens vont vous dire « mais je vois la chaise, j'ai mal ». Croyez-moi ou pas, je vois la chaise, j'ai mal.
Alors j'imagine qu'il y a eu des études sur la douleur au travail. Enfin, il y a le mal-vivre, le mal-être, et le travail peut être aussi une de ces raisons. Par contre, il y a des gens qui aiment leur travail, qui se sentent bien, et sans leur travail, leur vie est dégradée, pour le coup, à l'inverse.
Alors, il y a en effet des études qui montrent que, bien évidemment, le bien-être au travail est un facteur de non-douleur chronique. Oui, parce que quand on est heureux au travail, finalement, toutes ces pathologies qu'on associe, notamment le fait d'être assis ou autre, n'ont pas lieu d'être, finalement, puisque la personne aime aller au travail. Mais par contre, moi, ce qui m'a... pas choquée, parce que les chiffres, je les connaissais, mais ce qui m'a fait me dire, mais il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Il y a un sondage d'Opinion Way, là, il y a quelques semaines, qui vient de sortir, où 42% des personnes expriment être en détresse psychologique au travail. 42%. Et une personne sur 10 est en burn-out sévère. On est dans un pays, quand même, où normalement, on devrait... être heureux d'aller travailler ou du moins quand même trouver sa place. Et quand on entend ces chiffres, on se dit mais c'est vraiment tellement triste. C'est-à-dire que c'est des gens qui le matin se lèvent et elles n'attendent qu'une seule chose, c'est de rentrer chez elles. Alors que finalement, on sait tous qu'on passe plus de temps au travail avec nos collègues finalement qu'à la maison. Ces chiffres sont dramatiques.
Alors, effectivement, pour résoudre ça, il pourrait y avoir la mobilité dans le travail, pouvoir choisir, changer d'activité pour trouver quelque chose qui nous corresponde le mieux. Ce n'est pas forcément très favorisé, ça, dans les systèmes, même dans la fonction publique. Hein.
Alors, on va dire que c'est très ancré en France. Alors moi, j'ai vécu dans d'autres pays, et notamment au Canada, où c'est vrai qu'on peut facilement passer d'un métier à l'autre. On n'a pas forcément un métier pour la vie. On peut être multitâche, on peut faire différentes choses. Et eux estiment que finalement, si vous avez plusieurs métiers, chaque métier vous apporte une compétence et vous êtes donc meilleur dans ce que vous faites. Alors qu'en France, parfois, on va tendance à dire « Ah mais non, mais si tu fais différentes choses, ça veut dire que tu t'éparpilles et que tu es moins bon dans ce que tu fais. » On a un peu un souci avec ça, avec le fait de finalement « Mais si je fais de la musique, est-ce que ça ne m'aide pas à avoir une présence scénique? Donc est-ce que je ne suis pas une meilleure professeure? Parce que finalement, je fais un peu le show pour mes étudiants. » On a un peu, parfois, on oppose les différents métiers, alors que chaque métier peut apporter des nouvelles compétences à la personne et en faire finalement un meilleur professionnel dans tout ce qu'il fait.
Alors, je ne sais pas si en Italie, ça se passe bien pour les gens qui travaillent, mais souvent, ils ont plusieurs métiers. Dans la même journée, ils peuvent faire 3 métiers différents, les Italiens. Ils semblent au moins aussi heureux que nous.
Alors, je ne connais pas particulièrement l'Italie, j'avoue. Mais c'est vrai. Alors, après, il y a aussi d'autres choses à prendre en compte. Alors, ce que je connais bien, c'est l'Allemagne. C'est vrai qu'en Allemagne, l'organisation du travail est très différente. C'est-à-dire qu'on ne passe pas forcément sa journée complète au travail. On commence tôt, mais en général, à 16h, les gens font autre chose, en fait. Ils s'organisent autrement. Je pense que ce qui tue un peu la France parfois, c'est le fait, et pour avoir bossé dans des grands groupes, je le connais bien, c'est « Oula, je ne vais pas me lever tant que le chef ne s'est pas levé, en fait. » Parce qu'il est 18h moins 5, si je me lève maintenant, donc on attend 18h que le chef soit parti, et à 18h03, on est dans sa voiture. Mais c'est tellement triste. Et j'ai une anecdote de l'Allemagne, justement, et où moi j'étais stagiaire à l'époque, hein, j'étais chez Intel Corporation, donc j'étais stagiaire en marketing. Et puis, en bonne petite française, hein, j'arrive à 8h15 pour 9h, j'attends, etc. Je travaille toute la journée et je pars à 6h. Voilà, donc en même temps que mon patron. Voilà. La première semaine de stage se passe et à la fin, de la première semaine, je suis convoquée, donc normal, hein, petit bilan, etc. Et il me dit, écoutez, on est très très satisfait de votre travail, hein, c'est bien, mais par contre, est-ce que vous avez un problème d'organisation ? Alors, je lui dis, écoutez, non, je pense pas, tout en sachant que je traînais forcément, parce qu'il y avait des moments où j'avais plus rien à faire, et voilà. Et il me dit, non, parce que normalement, une stagiaire, à 16h, vous êtes partie. Hein. Et là, j'ai fait, ah ouais, ok, pas du tout la même culture. Donc, à partir de ce moment-là, je suis partie à 16h. Mais il y a un peu cette différenciation de se dire, c'est pas parce que je suis au travail que je travaille, en fait.
On retrouve un petit peu ça en école, hein. Enfin, quand je dis en école, je veux dire dans les écoles primaires, ou secondaire en Allemagne, où les horaires purement scolaires sont, on va dire, s'arrêtent, je sais pas, vers 14h. Et après, il y a d'autres activités qui sont très différentes, qui donnent peut-être plus de plaisir immédiat et qui équilibrent un peu les journées.
Oui, c'est sûr. Alors après, je sais que plusieurs ministères ont essayé de mettre ça en place. C'est toujours très compliqué. Alors je ne connais pas les dossiers, donc je ne vais absolument pas me prononcer sur quelque chose dont je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Mais c'est vrai qu'on se pose la question, comment ça se fait qu'en Allemagne, ils y arrivent et pas en France? Parce qu'on est quand même dans des pays avec relativement les mêmes structures économiques. Bon, alors ça, ce sont les mystères. Mais encore une fois, je ne connais pas les tenants et les aboutissants des dossiers. Mais en effet, c'est sûr que le fait de pouvoir s'orienter vers autre chose et aussi se connaître par autre chose, parce que c'est vrai que dans tout ce qui est harcèlement scolaire, il y a aussi le fait que quand on est bon en classe, on est catalogué bon en classe, parce que les personnes ne nous voient que comme bon en classe. Alors que quand on fait des activités à côté ou autre chose, ah oui, il est bon en classe, mais au foot, il assure quand même aussi. Oh, mais elle chante bien, elle. Oh, puis donc, c'est une bonne actrice. Et donc, finalement, ça aide aussi, peut-être, à passer cette barrière du il est bon en classe, oui, mais. Il est un peu bizarre, oui, mais c'est parce qu'en art, waouh, quand il fait une peinture, mais moi, j'ose même pas, quoi. Donc, c'est sûr qu'il y a tout cet côté, je peux être un collégien ou un lycéen, c'est pas que être à l'école, c'est aussi être quelque chose à côté, c'est être une personnalité, c'est avoir d'autres... Et justement, avec mes étudiants, on va bientôt aborder les hard skills and soft skills, où on parle justement, donc les hard skills, c'est ce que j'apprends à l'école. Mais tous les soft skills, c'est-à-dire tous ces savoir-être qu'on a besoin. C'est sûr qu'on ne les a pas forcément à l'école. Les savoir-être, on les apprend dans les associations, on les apprend dans le cadre, finalement, plutôt extrascolaire que scolaire.
Non, justement, pour toutes ces personnes qui ont envie d'avoir une vie équilibrée, il faut encore qu'elles aient la chance de pouvoir tester, tenter, même se tromper parfois pour rebondir et envisager d'autres perspectives.
Oui, et c'est vrai que, mais, par exemple, au Canada, dans le cursus scolaire, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais quand j'y étais, en tout cas, dans le cursus scolaire, il fallait forcément avoir, par exemple, un sport ou un art. Donc, il fallait faire forcément l'un des deux. C'était obligatoire, c'était dans le cursus. Et c'est vrai que ça permet de voir autre chose. Et ça permet, en effet, comme tu dis... avoir plusieurs cordes à son arc permet finalement de se dire bah, ça je me suis un peu trompée, c'est pas fait pour moi, est-ce que je pourrais pas aller faire autre chose. Par contre c'est vrai qu'on va pas dépeindre non plus un tableau complètement noir de la France, parce que je pense qu'on a quand même aussi on a des comptes formation, on a aussi des choses qui permettent quand même de pouvoir se reconvertir, changer de métier. D'ailleurs moi j'en ai bénéficié aussi, puisque quand j'étais chef de produit acheteuse dans le textile, donc j'étais sur la fin de la gloire des Trois Suisses Redoutes, etc. Donc j'ai connu les belles années, mais j'ai connu aussi les plus difficiles. Et sachant que j'étais pas forcément épanouie dans mon métier parce que... Alors j'adorais le métier d'acheteuse, hein, je voyageais, enfin, c'était extraordinaire. En plus, comme je vous dis, les belles années, ça veut dire qu'on voyageait en business class. Mais finalement, j'allais quand même négocier 15 centimes à des gens que je voyais tous les trois mois, donc avec qui, ben, finalement, il y a des liens qui se créent. Et puis, on sait qu'ils ne peuvent pas forcément mettre leur enfant à l'école et qu'ils n'ont pas l'eau courante. Et alors, oui, je les aidais à se développer, j'entends bien, mais je préférais laisser ça à d'autres, parce que moi, je n'arrivais pas. Et du coup, je suis partie avec un plan social et j'ai été accompagnée par le Pôle emploi. Et le Pôle emploi, justement, moi, j'ai dit, ben, voilà, je suis quelqu'un qui aime bien me tourner vers l'autre, etc. Et à ce moment-là, j'ai pu faire un DU d'art-thérapie et me former, justement. Alors, j'ai adoré ton introduction, parce qu'en effet, la musicothérapie, mais oui, ça existe, la musicothérapie, ça marche très, très bien.
j'ai lu un tas d'études, ben, c'était dimanche, il faut bien passer ces dimanches à quelque chose, hein, sur le « la », tu sais, la note « la », elle est accordée différemment selon les périodes. Donc, en 432 Hz ou 400, je vais dire une bêtise, 40 Hz. Et, par exemple, toute la période avant 1939, en France, on était en 432 Hz. Donc, on se faisait sonner tout le diapason sur cette base-là. Et tout l'orchestre, bien sûr, était au diapason. Et après, en 1939, suite à des influences diverses et variées, peut-être allemandes d'ailleurs, hein, on peut imaginer.
Alors là, je ne sais pas, je n'ai pas cette connaissance.
Il a fallu mettre les orchestres au diapason donc, de 440 Hz. Et selon certaines théories, alors qu'on peut juger fumeuses ou non, hein, la résonance de la note, de la fréquence, hein, a un impact immédiat, hein, sur son environnement, puisque de ces ondes-là se déterminent certains mouvements, par exemple des particules, etc., qui se composent ou recomposent par rapport à cette fréquence qui induit donc aussi un mouvement cinétique, on va dire. Mm-hmm. Hein. Et donc, selon la fréquence, l'effet est différent. Donc, on dit le 432 était plus riche, plus intéressant, et c'était le français à l'époque.
Mais est-ce que c'est notre côté chauvin ou est-ce que c'est la réalité ? Il faudrait creuser.
Voilà. Donc, il y a des groupes comme Pink Floyd qui sont revenus à ces fréquences-là pour faire justement montrer. Puis il y a des gourous aussi qui disent, voilà, écoutez, les... Alors, il y avait une démonstration de bol tibétain. Alors, ça me fait rire parce que je suis allé dans ces endroits-là où j'ai acheté un bol tibétain. Et en fait, toutes les démos que j'ai vues sur YouTube de bol tibétain 432 Hz, par exemple, sachant qu'il y avait aussi d'autres fréquences, hein, des bols tibétains, il y en avait plusieurs, mais le bol qui était présenté 432, chaque vidéo que j'ai vue, le son était différent, ce qui prouve bien qu'il saute un petit peu de nous. Donc, il ne faut pas croire ce qu'on voit partout comme ça. Il faut prendre les choses avec du recul. Et je pense que dans tous nos métiers, ben, nous, à la radio, évidemment, on fait un peu attention à qui on accueille. C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps avant de vous inviter. pour vérifier un petit peu qu'on était un peu, pas sur la même longueur d'onde, mais qu'on partageait un certain nombre de concepts qui sont étayables, on va dire, qui puissent être montrés, démontrés et sérieux.
Non, mais c'est ce qu'on disait, dans ces métiers-là, il y a aussi beaucoup de charlatans.
C'est certain.
Et beaucoup de gens qui donnent de l'espoir. Alors, c'est bien. Ça peut aider, donner de l'espoir. Mais souvent, l'espoir est associé de gros sous-sous. Donc, c'est un peu le problème. Comme je te racontais, là, c'est vrai que j'ai des personnes qui viennent me voir en disant qu'on leur a extorqué de l'argent pour des sessions de groupe où il ne se passait rien et où finalement, chacun venait raconter sa vie pour qu'il n'y ait finalement aucun échange. Et ben voilà, la session était finie, quoi. Donc...
Alors, tu sais que j'ai aussi un groupe que j'anime sur Facebook qui correspond à cette émission Quoi de Neuf, qui s'appelle Quoi de Neuf à Lille.
Eh bien oui, j'étais dessus et j'ai découvert que tu étais derrière ce groupe.
Ben oui, l'idée, c'est de compléter l'émission par des infos que je reçois ou que d'autres ont et qu'elles mettent à disposition, qui mettent à disposition du public. Et donc, il y a plus de 7000 personnes dessus maintenant. Et c'est moi qui fais, bien sûr, les accueils de personnes qui veulent entrer. Et... Une fois sur deux, c'est un escroc ou voilà. Enfin, donc, ils vendent des faux billets, des fausses cartes d'identité, ou alors des marabouts, des choses comme ça. Enfin, vraiment, il y a un tri à faire de tout ça. Et en période de crise, je pense, en période Covid, il y avait beaucoup de gens un peu démunis psychologiquement, qui forcément étaient beaucoup plus sensibles. Peut-être que maintenant, ça revient peut-être à la norme, mais il y a eu un moment un peu d'égarement où certains escrocs, comme tu le disais, en ont profité.
C'est vrai que le Covid a apporté des choses très positives, c'est-à-dire le fait de passer un peu en visio, parce que c'est vrai que maintenant, finalement, on se rend compte qu'on peut quand même travailler à distance et que ça peut fonctionner. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais d'un autre côté, travailler en visio, ça veut dire que finalement, la personne ne sait pas où on est, c'est pas vraiment ce qu'on fait et que c'est quand même pas pareil que d'avoir un cabinet, d'avoir des gens en face de vous et que d'avoir... Donc c'est sûr que la visio est à double tranchant. Il faut savoir à qui on a affaire et avec qui on discute, ouais, c'est sûr.
Voilà, donc Lily Rhodes, on va peut-être expliquer donc, ce livre qui a été publié. Il a un titre, on ne l'a pas encore dit.
Non, c'est vrai, mais alors il y a même deux livres. Alors le premier, c'est chez City Edition, qui s'appelle « J'ai mal, mais je me soigne ». Et finalement, ce premier livre, c'est le deuxième. Aha. Alors pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à me rendre compte qu'avec les différentes compétences que j'avais, avec les différentes études, les formations que j'avais faites aux États-Unis, j'arrivais à m'en sortir, j'ai commencé à compiler tout ça en fait. Donc au départ, j'avais fait, c'était dans des cahiers, après je les ai mis sur PowerPoint, après j'ai essayé de faire un PDF, etc. Jusqu'à ce que finalement ça fasse 300 pages et que ça devienne un livre. Les personnes à qui je l'ai fait lire, donc j'étais sur des groupes, tu sais, donc un peu comme ton groupe Facebook, mais c'était entre personnes qui étaient douloureuses chroniques et où finalement c'est... Alors c'est bien et c'est pas bien parce qu'on est quand même entre gens qui avons mal, donc on tourne un peu en rond. Donc il y a du soutien, mais il y a aussi... c'est pas forcément simple. J'ai commencé à donner du coup un peu mes conseils et puis à envoyer un peu le PDF, etc. Et les gens m'ont dit « Mais tu devrais essayer de le publier, c'est intéressant ». Bon, alors ok, je me suis dit, c'est vrai que pourquoi pas, si ça peut être diffusé à grande échelle, mais j'étais quasiment sûre que j'allais devoir l'auto-publier. Et puis, donc j'ai démarché les maisons d'édition, et j'ai eu Frédéric Veil, qui est un journaliste de RTL, journaliste sportif, qui a plein de cordes à son arc. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il était aussi dans une maison d'édition. Donc ça, je ne le savais pas. Donc je lui ai envoyé le manuscrit en disant, toi qui es un peu dans tout ce monde-là de la radio, est-ce que tu connaîtrais peut-être une maison d'édition qui serait intéressée par mon projet? Et il me rappelle en me disant, ton projet en l'état... a l'air sympa, mais ne m'intéresse pas. Par contre, si tu pouvais me raconter en 300 pages les 15 premières, parce que je pense que le public serait intéressé par ton histoire, en fait. Savoir comment t'en es arrivé là et savoir tout ce que t'as fait. Et du coup, je me suis dit, d'accord, alors dans ces cas-là, je réécris. Donc, je me suis mis à réécrire un deuxième livre. Et dans l'intervalle, pendant que j'écrivais, j'ai une autre maison d'édition, donc les éditions Favre, les éditions suisses, qui m'ont contactée pour justement le livre que j'avais écrit à l'origine. Donc les maisons d'édition se sont mis d'accord et c'était plus logique de présenter mon témoignage avant de présenter la méthode en 45 jours que je propose. Donc voilà, donc c'est comme je n'étais pas écrivain et d'ailleurs je ne suis toujours pas, je ne m'estime pas être écrivain. J'ai écrit, j'ai témoigné de ce qui m'arrivait. C'est comme ça qu'il y a un premier livre qui est sorti en février et que le second sort en septembre, là, le 20 septembre. Voilà.
Et la chanson dans tout ça, Lily Rhode ?
Et la chanson dans tout ça ? Eh bien, écoute, la chanson, elle me suit depuis que j'ai 3 ans et que je montais sur la table basse. D'ailleurs, je ne sais pas si mes parents écoutent, mais ils doivent avoir des souvenirs. D'ailleurs, ils ont même des cassettes audio où on m'entend chanter parce que ça a toujours été, ça a toujours été ma passion, ça a toujours été ce qui m'a animée. Je pense que c'est, j'en suis sûre, c'est ce qui m'a sauvée pendant ma période de harcèlement scolaire. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai été harcelée au collège. Donc je suis rentrée en 6e et on va dire je n'y suis plus trop retournée à partir du mois de décembre. Et ensuite je suis retournée en première. Donc on va dire qu'il y a un gros trou dans ma scolarité. J'ai fait l'école toute seule à la maison, donc j'ai pas eu de précepteur ni quoi que ce soit, mais j'ai eu les avantages de mes inconvénients, c'est-à-dire qu'on m'a harcelée parce que j'étais bonne en classe, mais comme j'étais bonne en classe, j'ai réussi toute seule avec mes livres à me débrouiller finalement, à me faire l'école à la maison. Et par contre, les journées sont longues hein, quand on est toute seule, et surtout qu'on est anorexique. Alors toute seule, bien évidemment, il y avait mes parents, mais je compare pas la présence de parents à la présence d'autres enfants de votre âge, bien évidemment. Et les journées étaient longues, sachant que j'étais tombée dans l'anorexie. Et que malheureusement, tout s'était un peu fermé pour moi. Je ne pouvais plus faire de sport, je ne pouvais plus faire grand-chose. J'étais que l'ombre de moi-même, comme je dis dans la chanson « Rien de plus » que tu passeras tout à l'heure. Donc l'ombre de moi-même, c'était vraiment ça. Et finalement, la chanson, c'est ça qui me tenait à bout de bras. C'est-à-dire que j'écrivais des textes, je chantais dans ma chambre. J'avais, vous savez, les anciens radiocassettes doubles où on attendait à la radio pour à tout prix écouter pour récupérer la chanson qu'on avait envie d'avoir. Et puis je chantais. Et je pense que c'était ça qui rythmait mes journées. Et si j'avais pas eu la chanson à ce moment-là, je pense que je serais pas là aujourd'hui, quoi.
Alors aujourd'hui, justement, c'est un grand moment parce qu'il y a une vidéo qui est pratiquement prête et le son qui est déjà sur nos platines. Là.
C'est ça. Ben, la chanson, elle s'appelle « Rien de plus ». Elle va être présentée d'ailleurs au prix LEM, donc au prix pour le patient artiste, en fait. Donc voilà, ça sera sur Instagram bientôt. Donc si vous entendez, bien, venez voter pour la chanson. Cette chanson, elle raconte un peu... les hauts et les bas que j'ai eus et que finalement qu'on a tous à des moments dans notre vie. Et je pense que quand on a des gens autour de soi ou quand on a des passions ou quand on a des choses qui nous animent, c'est ça qui fait que quand on devient l'ombre de soi-même, finalement on arrive à rebondir et on se dit, comme dans la chanson, tout est encore possible, il suffit juste d'y croire encore un peu, quoi.
Le titre ?
Rien de plus.
Tu te rappelles de ces rues que tu trouvais belles et qu'elles sont devenues témoins d'une vie dissolue et là où tes pas te mènent selon et quand ce flot te frôle et te pousse et te glace et puis t'égratigne un peu à fleur de peau, trop lasse, tu ne tolères plus les bleus et quand le jour se lève et qu'il ne pleut que des larmes et quand la nuit arrive sur ta vie à la dérive, non rien de plus, rien de plus, rien de plus sur l'autre. Reprends les âmes. Quand tu te réveilles et le souvenir d'une bouteille n'ont plus rien à faire ici, que faire semblant d'être en vie et quand ce flot te frôle et te pousse et te glace et puis t'égratigne un peu à fleur de peau, trop lasse, tu ne tolères plus les bleus et quand le jour se lève et qu'il ne pleut que des larmes et quand la nuit arrive sur ta vie à la dérive, non rien de plus, rien de plus, rien de plus sur l'autre rive, reprends.
Voilà, Lydie Rhode, une grande première sur Radio Campus. Heureux donc de présenter, j'allais dire, c'est un scoop, hein, on peut dire ça comme ça.
C'est ça, c'est tout frais, tout chaud, ça vient de sortir.
Alors, premières impressions à écouter sur une radio, en direct d'une radio, une chanson qu'on a passé beaucoup de temps à élaborer.
Bah, toujours un petit peu, bah, tu l'as vu, hein, toujours un peu ému, ça, c'est jamais anodin parce que c'est énormément de travail derrière, ça me rappelle énormément de souvenirs. Et puis c'est vrai que la carrière musicale, pour moi, elle remonte à vraiment, vraiment longtemps. Puis là aussi, voilà, une petite pensée pour Michael Jones quand même, le guitariste de Jean-Jacques Goldman, puisque c'est grâce à lui finalement que j'ai osé vraiment me lancer. Et me dire que ce que je faisais, ça valait peut-être le coup d'être entendu par d'autres personnes.
Bon.
Puisque moi, je faisais pas mal de reprises, en fait. J'étais dans un groupe, je faisais des reprises. Et je jouais une ou deux chansons à la fin, voilà, mais en les cachant bien, pour être sûr que personne ne les entende, quoi. Et puis une fois, on avait sur le groupe, pour faire un petit peu de pub, on avait mis ça sur Internet. Et c'est vrai que le fait qu'ils viennent me dire « Mais si, mais tu vas faire mes premières parties, mais si, c'est bien ce que tu fais », c'est sûr que ça m'a donné un élan énorme, parce que je me suis dit « Bon, bah, il ne va pas faire ça, il ne va pas me mettre en première partie si ce que je fais est catastrophique ». Donc ça m'a donné, ouais, ça m'a donné confiance en mon travail, et ça fait, et c'est très dur de réussir dans ce milieu, voilà, ça c'est clair. Mais je pense que, voilà, je sais que la scène me manque beaucoup, donc j'espère que, voilà, que cet album... cette EP, pour l'instant, donc un EP, c'est un 5 titres, avec ce 5 titres qui va sortir. J'espère qu'on aura les radios qui vont nous suivre. Mmh. Et puis j'espère, voilà, pouvoir remonter sur scène, parce que c'est sûr que ça me manque énormément. Le public me manque.
Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance de voir là le clip presque terminé, hein,
ouais,
presque monté. Presque, hein.
Presque
et
monté.
Donc, voilà, de belles images. Peut-être qu'on pourrait... Alors, c'est vrai que maintenant, quand on sort des chansons, il est rare qu'on n'ait pas... également une vidéo à présenter. Ouais. Autrement, c'est un peu compliqué du point de vue marketing, peut-être. Hein.
C'est ça. Bah, c'est clairement ça. C'est vrai que maintenant, tout est image. Et même, je ne sais pas si tu as Spotify ou ce genre de choses, c'est vrai qu'il y a toujours une petite image aussi qui tourne. Enfin, voilà. Il faut de l'image. Une chanson, maintenant, est associée à de l'image. C'est sûr que c'est un peu indissociable.
Voilà. Alors, c'est vrai que nous, on fait de la radio. C'est un autre média que les YouTube et autres plateformes vidéo. Pour faire un clip, c'est aussi beaucoup de travail.
Oui, c'est aussi beaucoup de travail. Et puis, celui-là, c'est vrai que je suis assez contente, parce que c'est vrai qu'il a eu, comme je t'ai raconté, quelques aventures. Bien évidemment, rien ne se passe jamais comme on l'a prévu. Et donc là, je fais un petit clin d'œil à Jane, du côté d'Anglette, parce que c'est elle qui m'a sauvée. Et vous verrez comment elle m'a sauvée avec le clip qui sortira bientôt.
Voilà, donc on aura l'occasion de le voir. Ben, peut-être qu'on le calera sur le groupe Facebook Côte Neuf à Lille.
Avec plaisir.
Tu es une vraie Lilloise.
Oui, je suis à la maison. Mais oui, avec plaisir. Vous l'aurez le même jour, c'est-à-dire normalement le 8 ou 9 septembre. Donc je te l'envoie sans problème.
Voilà, donc c'est une rentrée pour toi qui s'annonce riche, j'allais dire motivante.
Ah bah oui, je suis vraiment ravie. C'est sûr qu'il y a plein de projets. Pas toujours facile de tout concilier, mais là je voudrais faire un petit clin d'œil à l'Université de Lille. Parce que c'est vrai que justement, là où je disais, où on a l'habitude de dire que les Français sont monotâches, Régis Bordet, le directeur, et puis le directeur de l'IUT aussi, Denis, sont plutôt dans l'optique inverse, de dire on peut être professeur agrégé d'anglais, et puis ça n'empêche pas aussi de faire des recherches à côté, et on peut être artiste, et on peut... ils avaient annoncé, par exemple, la sortie de mon livre. Donc ça, je trouve que c'est vraiment... Justement, parler du bien-être au travail, c'est quelque chose qui vous donne envie de venir au travail, justement, en vous disant je suis professeur, mais je suis aussi autre chose, et je peux être toutes ces choses en étant une bonne professeure.
Voilà, et bien maintenant, le bien-être, c'est aussi en écoutant la radio.
C'est exactement ça.
On te remercie d'être venu avec donc ce clip en version audio pour l'instant. Et puis, bien sûr, tu nous tiens au courant de ton actualité, Lydie Rhode.
Mais bien sûr, et je reviens vous voir quand vous voulez. Et puis peut-être qu'il y aura un petit live guitare la prochaine fois.
Avec plaisir.
Eh bien, le rendez-vous est pris.
C'est noté.